Bonjour à tous. Enfin, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis toujours heureux de prêcher des retraites pour des couples, parce qu'à chaque fois, je sens qu'il y a une grâce particulière, enfin, comme un peu une tendresse de Dieu, enfin, un amour de Dieu, je dirais même une complicité, un peu du bon Dieu qui est père, hein, avec vous. Hein, et donc, je suis très heureux que vous m'ayez invité, et puis je me confie à vos prières pour que Dieu puisse m'utiliser, hein, pour votre bien, vos besoins concrets d'aujourd'hui. Hein, mais je pense qu'on vivra un beau moment ensemble. Hein, parce que c'est vrai qu'en tant que couple, vous portez des valeurs qui sont absolument essentielles, hein, aussi bien pour l'Église que pour la société, la vie humaine, mais aussi essentielles d'un point de vue spirituel. Hein, je crois que les valeurs dont le couple et la famille sont porteurs sont extrêmement précieuses pour l'Église. Bon, je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas le sujet, mais simplement pour dire que je suis heureux de me mettre à votre service, hein, pendant ces 2 jours. Et puis, comme je l'ai déjà dit, priez pour moi que le Seigneur puisse vraiment m'utiliser pour vous encourager, vous fortifier dans le chemin donc qui est le vôtre. Donc avant de commencer mon enseignement, je voudrais on l'a déjà fait, mais on va se remettre un petit peu entre les mains de Marie, hein, puisque le thème que nous abordons, c'est celui de l'écoute, de l'accueil de l'Esprit-Saint. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut beaucoup nous aider dans ce domaine-là, c'est bien la Vierge Marie. Alors on va lui confier ce moment de partage. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, comme tu as été totalement docile à la grâce, au travail de l'Esprit, accorde-nous, nous aussi, d'avoir la même docilité, de manière à porter beaucoup de fruits, comme toi tu l'as fait dans ta propre existence. Accompagne-nous pendant ces 2 jours et attire sur nous la grâce et la présence de l'Esprit. Alors donc, la question à laquelle je voudrais répondre pendant les enseignements que je vais faire, il y en aura 3, hein, c'est donc comment nous rendre disponibles à l'action de l'Esprit-Saint, hein, comment nous offrir le plus possible au travail de la grâce de Dieu. Alors pourquoi cette question? On aurait pu en prendre une autre. Hein. Mais si j'ai, avec vos responsables, si j'ai donc choisi de traiter ce thème, c'est parce que je pense que c'est la question fondamentale de notre vie. Je crois que c'est la question essentielle dans toute vie chrétienne. Hein. Comment laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous? Je dirais que c'est peut-être la principale question qui devrait nous travailler. Parce que c'est justement dans la mesure où c'est l'Esprit-Saint qui agit en nous que notre vie peut porter du fruit, hein, pour le Seigneur, pour l'Église, pour ceux qui nous sont proches. Oui, Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, dans l'allégorie de la vigne et des sarments, hein, Jésus nous dit la chose suivante: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, sans la grâce qui vient du Christ, et la grâce qui vient du Christ, c'est le don de l'Esprit. Sans cette grâce-là, nous ne pouvons rien faire. Oui, Jésus est assez radical, ça peut nous choquer un peu parce qu'on a quand même l'impression qu'on peut faire des choses. Alors c'est vrai qu'on peut faire des tas de choses, mais si on veut que ce que nous faisions porte vraiment du fruit qui dure, oui, pas simplement bon, des choses qu'on remue comme ça pendant certains moments de notre existence, mais des fruits qui vraiment en durent, hein, je dirais durent même pour l'éternité, hein, je pense que sans la grâce de l'Esprit-Saint, je crois que ça nous est difficile. Et puis, il y a d'autres textes de l'Écriture qu'on pourrait citer un petit peu à l'appui de cette affirmation. Par exemple, vous connaissez ces paroles du psaume 127 que nous allons relire. Il nous dit un petit peu la même chose autrement. Donc, psaume 127 ou 126, ça dépend des numérotations, vous savez qu'il y a ce problème de différence entre la numérotation liturgique, enfin de la Vulgate, et puis celle du texte hébreu. Bon. Donc voilà les paroles que nous adresse l'Écriture, et c'est bien de les réentendre. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. Si ce n'est pas le Seigneur qui fait le travail. Vanité de vous lever matin, de retarder votre coucher, mangeant le pain des douleurs, quand lui comble son bien-aimé qui dort. mais je crois que c'est un texte qui est là un petit peu pour nous provoquer. Oui, il y a celui qui s'agite beaucoup, qui bosse beaucoup, qui se lève très tôt le matin, qui se couche tard le soir et qui ne fait que manger un pain de douleur sans beaucoup de résultats. Puis à côté de ça, Dieu comble son bien-aimé qui dort. C'est un peu choquant quand même, un peu provoquant. Mais alors, ça ne veut pas dire, vous voyez, que l'Écriture nous invite à la paresse et puis à rester au lit toute la journée en entendant que le Saint-Esprit travaille à notre place. Hein, ce n'est pas tout à fait ça qui est demandé. Hein, parce que sinon, on nous demande de travailler, évidemment. Et puis, c'est vrai que oui, plus je suis généreux dans le don de moi-même, plus je suis généreux dans le service de mes frères, de l'Église, de mon travail, eh bien plus je recevrai la grâce du Saint-Esprit. Hein, c'est clair, donc il ne s'agit pas de tomber dans la paresse. Mais enfin, il y a quand même, je dirais, cette vérité qui nous est présentée de manière assez forte, hein, que si ce n'est pas le Seigneur qui agit à travers nous, eh bien on peut faire beaucoup, se fatiguer beaucoup, sans beaucoup de fruits, hein, des fruits qui durent. Donc vous voyez, la conséquence de ça, elle est très simple, c'est que c'est très important pour nous donc d'apprendre à laisser Dieu agir à travers nous, vous voyez. Laisser Dieu agir en nous. Hein, laisser l'Esprit Saint travailler à travers nous. Hein, c'est absolument essentiel. Je vous cite une phrase de Saint Séraphim de Sarov, qui est un grand saint de l'Église russe, qui est mort en 1833, qui a eu un énorme rayonnement, qui est très très populaire en Russie, on trouve ses icônes partout. Il disait la chose suivante: le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et tout le reste, c'est des moyens, vous voyez, les sacrements, la prière, tout ce qu'on évoquera, c'est des moyens, mais le but, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est la priorité des priorités dans notre vie. Comment faire pour acquérir le Saint-Esprit? Oui, ça, je dirais que personnellement, j'en suis de plus en plus convaincu. Vous voyez que nous devons être bien sûr actifs, généreux, entreprenants, responsables, mais qu'il y a comme un peu un secret à côté duquel il ne faut pas passer, hein, c'est que toute cette dimension, je dirais, d'activité, d'initiative, de projet qui est absolument normale et indispensable dans la vie humaine, hein, il faut qu'elle soit accompagnée aussi par autre chose, je dirais, c'est un petit peu ça qu'on va expliquer, comme une attitude de fond, qui est une attitude de réceptivité, d'accueil, oui, hein, d'accueil de la grâce, hein, d'accueil de la présence de Dieu, hein, d'accueil du don de l'Esprit. Oui, nous sommes appelés à donner beaucoup, hein, comme parents, comme dans la vie professionnelle, enfin aussi nos engagements dans l'Église, hein, nous sommes appelés à donner beaucoup, hein, mais si nous voulons donner beaucoup, il faut apprendre à recevoir, voyez. Hein, parce que parfois, vous voyez, on donne, on se fatigue, on s'épuise, et puis justement à la fin on est épuisé, puis même on est un peu amer et on en veut parce qu'on s'est fatigué, puis on a l'impression que ce qu'on a récolté, enfin on a fait beaucoup, puis on a l'impression que ce qu'on a récolté, c'est la fatigue plus qu'autre chose. Et parfois on est un petit peu donc dans une certaine amertume ou frustration, hein. Donc c'est parfois un peu notre défaut, vous voyez. Si nous voulons donner beaucoup, il faut apprendre à recevoir beaucoup, oui, à accueillir, recevoir De la grâce de Dieu, ce qui nous est nécessaire, hein, la force, la sagesse, la lumière, etc., hein, dont nous avons besoin. Oui, et plus nous apprenons à recevoir de la grâce de Dieu, et bien plus nous pouvons donner beaucoup, hein, sans nous épuiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas fatigué, parce que ça fait partie de la vie, hein, de temps en temps, bon. Mais il y aura quand même une espèce de fidélité qui sera possible, vous voyez, parce que on a appris concrètement à recevoir jour après jour de Dieu ce qui nous est nécessaire. Nous sommes petits, pauvres, fragiles, mais sans inquiétude, parce que jour après jour, on apprend à recevoir de Dieu la grâce qui nous est nécessaire, chaque jour, un jour à la fois. Oui. Dieu donne, Dieu est fidèle. Donc, oui. Et je vous lis une petite phrase de Thérèse, là, qui peut aussi un petit peu nous choquer, de Thérèse de Lisieux, hein, qui est docteur de l'Église, il ne faut pas l'oublier. Voilà ce qu'elle dit. Le mérite ne consiste pas à faire et à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir, à aimer beaucoup. Oui. Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, oui. Mais plutôt à recevoir et à aimer beaucoup. Parce que en recevant, en aimant beaucoup, on pourra donner beaucoup. Mais oui, c'est pas nous qui donnons, c'est Dieu qui donne à travers nous. Et ça change beaucoup de choses. Oui, laissez Dieu passer à travers nous. Alors ça voudra dire que notre moi, il faut le mettre un peu de côté, ça on le verra, c'est une des conséquences, oui, pour être transparent à l'action de Dieu, mais c'est très très beau en même temps, vous voyez, parce que je crois que ça permet une fécondité dans notre vie de durer dans une fécondité, une liberté aussi qui est belle. Donc, alors, ça va être ça que je vais essayer de traiter pendant les trois enseignements. C'est donc comment faire pour accueillir le Saint-Esprit, comment faire pour être dans cette attitude de réceptivité à la grâce, voyez. Non pas paresse, mais réceptivité à la grâce. Vous voyez, pour prendre une image, c'est souvent une image qu'on utilise quand on parle de l'action du Saint-Esprit. On compare le bateau à rame, où on se fatigue beaucoup pour avancer. Bon, on avance, mais c'est un peu fatigant. Puis il y a le voilier qui est poussé par le vent. Ça paraît beaucoup plus sympathique. Bon. Alors, je dirais, pour reprendre cette image, je dirais donc, quelles sont les voiles que nous devons ouvrir, vous voyez ? Les voiles qu'on doit déployer pour que le souffle de l'esprit puisse nous conduire et nous faire avancer. D'autres paroles, d'autres termes, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est un peu une liste. Il y aura 8 points, vous verrez, qui sont des attitudes qui me paraissent très très importantes pour cela. Oui, si on posait la question, toi Père Jacques, donc à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement dans notre vie concrète pour recevoir la grâce du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu répondrais? Eh bien, je dirais, voilà, il faut pratiquer ces 8 points. Alors, il y en a peut-être d'autres, puis vous savez, on peut regrouper autrement, il y en a 8, bon, on pourrait en mettre 6, on pourrait en mettre 12, peu importe, mais c'est un ensemble de réalités. On ne peut pas toujours découper la vie spirituelle et la vie humaine en tranches bien précises, mais bon, on a quand même besoin de pour l'expression, de distinguer les choses. Donc je voudrais vous présenter 8 points, attitude, comportement, attitude de cœur, qui me paraissent très importantes justement parce qu'elles permettent cette réceptivité spirituelle, vous voyez. Elles permettent d'être réceptif à la grâce et à la présence de Dieu. Oui, quelles sont les antennes, encore une autre image, quelles sont les antennes, oui, qu'on doit déployer pour être réceptif à la présence, à la grâce, à l'amour de Dieu, de manière à ce que ce soit lui qui agisse en nous. Alors, avant de commencer d'exposer ces points, il y en aura 8, donc je voudrais quand même faire une petite parenthèse justement sur l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie. Je ne vais pas être complet dans ce domaine-là, toutes les formes d'action, parce qu'elles sont assez nombreuses, mais qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie? Pourquoi il nous est donné? Pourquoi il est utile et plus qu'utile, nécessaire? Et puis quelles sont les manières dont il agit dans notre vie? Ce que je dirais d'abord, vous voyez, c'est que l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie, parfois elle est très sensible, on l'aperçoit, on sent bien qu'on reçoit une lumière ou on reçoit une force intérieure ou une consolation, un encouragement. Bon. Donc parfois l'action de l'Esprit est très sensible. Il y a vraiment quelque chose qui bouge dans notre cœur et c'est très net. Et bon, ça c'est très très bien. Bon, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où l'action de l'Esprit-Saint n'est pas sensible. On peut se sentir très pauvre, même très misérable, et pourtant l'Esprit-Saint agit. Parce qu'on est quand même dans une bonne disposition, de confiance, d'abandon par exemple. Oui. Donc l'action de l'Esprit-Saint est parfois très perceptible, parfois elle ne l'est pas, mais l'Esprit-Saint agit quand même. Donc l'important, ce n'est pas de sentir ou de ne pas sentir, l'important c'est d'avoir les bonnes dispositions, d'avoir ouvert les bonnes voiles. Après ça, le reste, c'est Dieu qui le fait. Mais du moment que j'ai les bonnes dispositions, je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que l'Esprit-Saint travaille. Parfois, je le sentirai, ça sera super sympa. Parfois, je ne le sentirai pas, ce n'est pas grave. Oui. Donc oui, donc faut pas mesurer la présence de l'Esprit-Saint simplement sur un baromètre émotionnel. Bon, parfois, certaines émotions profondes, un sentiment de l'amour de Dieu ou un sentiment de repentir ou une grâce de joie intérieure, bon, beaucoup de sentiments viennent du Saint-Esprit et sont un signe que l'Esprit-Saint est en train de travailler en nous. Et c'est très beau, parce que l'Esprit-Saint il travaille aussi notre être sensible. C'est pas une réalité abstraite. C'est très beau de ressentir intérieurement, émotionnellement, la présence et l'action de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puis je dirais aussi, vous voyez, que parfois, l'Esprit-Saint, c'est celui qui nous enrichit de grâces, de dons, de charismes divers. Mais l'Esprit-Saint, c'est aussi parfois celui qui nous appauvrit. En ce sens, les pauvres en esprit. En ce sens, qui nous fait voir notre pauvreté radicale. Il nous fait voir notre péché, nos limites, notre misère profonde. Alors, ce n'est pas très confortable pour notre orgueil, mais c'est très bénéfique. Mais je dirais que c'est un travail de l'Esprit-Saint. Oui, parfois, il travaille dans le sens de la richesse, de dons qu'il accorde. Parfois, il travaille plutôt dans le sens de la pauvreté, à nous rendre petits et pauvres devant Dieu. Mais c'est le même Esprit Saint qui agit dans les deux cas, et les deux sont très importants. C'est important de se savoir pauvre. C'est fondamental, on en reparlera un petit peu. Parce que la bonne nouvelle et le royaume, ils sont pour les pauvres. Bon, et puis, alors après ça, ce que fait l'Esprit Saint dans notre vie, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, je ne vais pas en faire un catalogue parce que je ne veux pas trop passer de temps à ça, mais je dirais que la chose la plus importante que fait l'Esprit Saint dans notre vie, c'est d'abord de fortifier ce qu'on appelle les vertus théologales. Autrement dit, le rôle fondamental de l'Esprit, c'est d'affermir notre foi, rendre notre foi plus décidée, plus forte, d'encourager notre espérance, notre confiance en Dieu, et puis de développer en nous l'amour, la charité, de nous rendre amoureux de Dieu, de nous aider à nous aimer les uns les autres, d'un amour vrai, fidèle. Oui. Bon, donc c'est ça le but fondamental de l'Esprit Saint, de fortifier la foi, d'encourager l'espérance et la confiance, et puis de déployer l'amour, de faire grandir la charité dans ses différentes formes. Amour de Dieu, amour du prochain, puis aussi amour de soi-même. On en dira peut-être un petit mot parce que ça, c'est aussi important. Donc ça, c'est le côté fondamental. Alors à côté de ça, il y a tous les dons divers, les charismes. Bon, je ne vais pas en faire la liste parce que je ne veux pas donc passer trop de temps à ça. Peut-être qu'il y a un peu deux points quand même que je voudrais évoqué comme action particulière de l'Esprit Saint dans notre vie, je dirais, c'est d'éduquer notre désir. L'Esprit Saint nous fait désirer ce que Dieu veut pour nous. Il nous fait aimer le bien que Dieu désire que nous accomplissions. Et parfois, il y a des désirs comme ça qui naissent en nous, un désir de prier, un désir de se donner avec générosité, un désir de se lancer dans telle ou telle vocation ou je ne sais pas quoi, enfin je parle de manière générale, qui viennent de l'Esprit Saint. Mais quand Dieu nous propose quelque chose de beau à accomplir pour lui, souvent il nous le fait désirer. Oui. Et donc ça, c'est il y a tout un travail de l'esprit au niveau du désir qui est très important. Oui. Il n'est pas là pour étouffer nos désirs, mais pour trier entre les désirs humains superficiels et puis les désirs profonds qui viennent de Dieu. Bon. Donc ça, c'est un point important. Et puis alors, mais ça c'est plus donc dans le long terme. Et puis un autre aspect aussi du travail de l'Esprit Saint qui a son importance, c'est ce qu'on peut appeler les inspirations. Vous voyez, c'est que de temps en temps, vous voyez, il peut nous arriver comme ça, de manière parfois un peu inattendue, de sentir intérieurement que Dieu nous demande quelque chose. Il me demande un moment de prière, il m'invite à donner un pardon. Un jour, j'ai plutôt envie de faire la tête que d'être sympathique, puis voilà que je sens intérieurement non. Accueille cette personne avec le sourire, même si tu as tes problèmes. Oui, donc des inspirations de la grâce pour telle ou telle décision, parfois des décisions importantes, parfois de toutes petites décisions dans le quotidien, mais on sent bien que c'est pas nous qui avons inventé le truc, mais et comme dans notre cœur, un mouvement, un travail de l'esprit qui nous invite, avec douceur, mais parfois avec une certaine force, à des décisions qui sont bonnes et positives pour nous et pour les autres. Et ça, c'est très important. C'est une grâce à demander, vous voyez, parce que chaque fois que nous obéissons intérieurement à l'Esprit Saint, à une inspiration que Dieu nous donne, eh bien, il y a toujours une joie qui est donnée. Mais parfois, il peut y avoir une résistance parce que ça peut demander un petit effort. Non, je veux faire la gueule parce que j'ai tel problème. Mais non, le Saint-Esprit te dit non. Accueille cette personne avec un sourire. Oublie-toi et puis elle a besoin de ton sourire. Donc, bon, je te donne un petit exemple parmi mille autres. Où parfois, le soir, je rentre à la maison, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Puis je sens intérieurement que Dieu me demande peut-être de rendre un petit service à mon épouse parce qu'elle aussi est fatiguée. Ou bien de prendre un petit moment de prière que je n'avais pas prévu parce que je n'ai pas beaucoup pensé au Seigneur pendant la journée. Vous voyez, bon. Donc il y a parfois comme ça des inspirations qui nous sont données au niveau du cœur. Et c'est très très précieux d'y obéir, parce que chaque fois qu'on obéit à l'Esprit Saint, même si l'objet est minime, même si c'est 30 secondes de prière ou un petit sourire, bien c'est toujours très beau, parce qu'accueillant une invitation de l'Esprit, c'est Dieu lui-même qu'on accueille. C'est la présence de Dieu qu'on accueille. Et donc le cœur se dilate. Il y a un encouragement, il y a une grâce, il y a comme une dilatation du cœur qui vient de cette obéissance à l'Esprit Saint. C'est très 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 précieux. Oui. Donc vous voyez, l'Esprit Saint, il nous fortifie dans les vertus théologales, il éduque notre désir, il nous inspire de temps en temps de manière ponctuelle dans des moments de notre vie quand on est attentif. Bon, puis après, puis il fait mille autres choses. Tous les dons, les charismes, la grâce pour la vie matrimoniale, toutes les grâces dont nous avons besoin, elles viennent du travail de l'Esprit Saint. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est donc démarrer un petit peu ce que j'ai annoncé. C'est vous présenter donc un peu ma boîte à outils spirituelle avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera un petit peu aussi ce que je vais faire, ce sera un petit peu un check-up par rapport à votre vie spirituelle, hein, parce que je vais toucher les points fondamentaux de la vie chrétienne à travers ce que je vais dire. Donc c'est peut-être aussi un certain check-up, une certaine révision de vie qui sera possible à travers ce que je vais dire. Oui, donc voilà donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter un certain nombre de points qui me paraissent des points fondamentaux, décisifs, pour cette réceptivité à la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de recevoir donc le don de l'Esprit dans notre existence de tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Qu'est-ce qu'il faut vivre, mettre en place? Quels sont les outils ou les voiles qu'il faut, utiliser pour cela. Alors, le premier point que... Alors, je vais vous dire des choses très très simples, hein, vous allez voir, c'est des choses classiques de la vie spirituelle, mais peut-être que le fait de les revisiter sous cet angle, eh bien, ça pourra nous faire du bien à nous tous, hein, dans ce temps de carême où on est invité à une croissance spirituelle et à nous remettre un peu face au Seigneur pour essayer de lui plaire et de le servir le mieux possible. Ça va, vous me suivez? Alors, je vais commencer par ma liste. Alors, le premier point sur lequel je vais dire un mot, c'est tout simple, c'est la prière. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, eh bien, la première chose à faire, c'est de le demander. C'est pas compliqué. Alors là, je vous rappelle ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint-Luc en particulier. Donc chapitre 11, verset 9, c'est des textes que vous pourrez reprendre pour votre méditation. Chapitre 11, verset 9 à 13, c'est un peu après avoir enseigné le Notre Père à ses disciples, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jésus l'a appris. » Les disciples posent cette question, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus enseigne le Notre Père, et puis après ça, fait certaines considérations sur la prière. Donc voilà ce que dit le Seigneur. « Eh bien, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Oui, des paroles très très belles. Et moi, je trouve que ces paroles que nous venons d'entendre, c'est peut-être les paroles les plus consolantes de toute l'Écriture. Face à tes pauvretés, à tes besoins, à tes difficultés, demande et tu recevras. Frappe, on t'ouvrira. Cherche, tu trouveras. C'est clair, c'est simple et c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reçoit immédiatement dans les 3 minutes tout ce qu'on a demandé, parce que bon, nos demandes ne sont pas toujours totalement pures, et puis il y a la sagesse de Dieu qui est parfois mystérieuse, ça, faut bien reconnaître. Mais c'est vrai, vous voyez. Alors, il faut vraiment faire confiance à la parole de Dieu. Demande et tu recevras. Ne te casse pas la tête, ne te décourage pas, t'inquiète pas. Demande et tu recevras. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Il y a beaucoup de papas là et je pense que des paroles comme ça, pas de problème pour eux. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et combien les parents désirent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils demandent. Combien plus le Père du Ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le prient pour cela? Combien plus? Oui, des paroles très 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 belles, et qu'on doit vraiment prendre dans son cœur comme des paroles de vérité. Oui, donc cette confiance que, eh bien, ce que nous demandons à Dieu, nous le recevrons. Alors, là encore, la manière de Dieu de répondre à nos demandes est parfois mystérieuse et parfois il faut du temps. Parfois des choses qu'il faut demander longtemps avant de les obtenir. Mais c'est bien en même temps parce que ça fait tout un travail intérieur, vous voyez. Puis le simple fait de prier nous attache à Dieu quelque part. Et même à la limite, si on ne reçoit pas tout comme on avait prévu, le fait d'avoir prié a changé notre cœur quelque part. Hein, parce qu'on s'est confronté à Dieu, oui. Hein, on s'est tourné vers lui, on s'est ouvert à lui, on lui a parlé, oui. Donc quelque chose s'est fait en nous. Hein. Même une prière qui n'est pas exaucée comme on aurait voulu, elles sont toujours exaucées, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, la prière que j'adresse à Dieu me travaille intérieurement, oui, me change intérieurement, m'ouvre à quelque chose qui me dépasse, à une présence, oui. Et donc c'est toujours bénéfique de prier, même si on n'a pas exactement le truc qu'on avait demandé. Oui. Vous voyez donc la prière, hein. Et je dirais que c'est peut-être l'essentiel. Alors, ce que je vais dire après est important aussi, mais c'est peut-être le plus important. Oui, la prière, parce que c'est vraiment la prière qui nous ouvre au mystère de Dieu et à la grâce de Dieu. Et quelle que soit notre pauvreté, quelles que soient nos limites, peu importe. Si je m'adresse à Dieu comme un enfant vers son Père dans la confiance, dans la recherche aussi de lui plaire, de l'aimer, eh bien, quelque chose de profond va se passer dans mon cœur et dans ma vie. Donc, je vais dire quelques mots sur la prière. Alors, la prière dont nous parlons là tout de suite dans la ligne du texte que nous venons de lire, c'est la prière de demande. Et donc c'est bien, et je crois que c'est important pour nous de demander souvent la grâce du Saint-Esprit, mais que ce soit quand on a des décisions à prendre, des situations un peu difficiles, des dilemmes, demander vraiment la grâce du Saint-Esprit pour que toutes nos décisions soient conformes à ce que Dieu désire pour nous, voyez, que ce soit mes choix dans ma vie familiale, professionnelle. Et quand on est businessman, c'est pas interdit de demander la grâce du Saint-Esprit pour les décisions qu'on a à prendre. Et moi, j'ai rencontré au Mexique il y a 3 semaines, ça m'a beaucoup touché, un entrepreneur qui a 13 000 employés dans son entreprise, et bien qui a consacré son entreprise à Dieu, et qui m'a dit, vous savez, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie professionnelle, et bien c'est votre bouquin à l'école du Saint-Esprit. Moi, je prends toutes mes décisions dans la prière et avec le Saint-Esprit, et son entreprise, il dit, les gens qui prétendent que quand on confie son business au bon Dieu, et bien le chiffre d'affaires baisse, moi je peux vous dire le contraire. Et un type qui a mis en place toute une aide sociale dans son entreprise, tout un truc qui met en place pour que les rapports humains entre les employés soient le meilleur possible, qui favorise un peu tout ce qui est aussi religieuse, selon les milieux où ils se trouvent. Bon. Enfin, j'étais beaucoup touché par ce témoignage. Oui, donc il y a cette prière de demande, et je crois donc demander l'Esprit Saint. Oui, pour alors, ça ne veut pas dire qu'on aura immédiatement la clarté absolue sur tous les. Il y aura des moments de doute, de tâtonnement. Ça fait partie de la vie. Hein. L'Esprit Saint, c'est pas une baguette magique qui nous téléguide du matin au soir pour tout. Et puis ça nous. Puis il faut aussi bien sûr qu'il faut pas non plus séparer la grâce de l'Esprit Saint de nos capacités humaines, de notre raison, de notre intelligence, de nos capacités. Bon, il ne s'agit pas par exemple, de négliger nos compétences professionnelles sous prétexte que c'est Saint-Esprit qui va tout faire à notre place. Il faut que je connaisse mon boulot, c'est clair, que je sois médecin. Oui, donc il ne faut pas du tout séparer, mais associer, je dirais, tout ce qui est compétences professionnelles ou sagesse humaine dans le domaine de la prise de décision, mais en même temps, confier toutes nos décisions au Seigneur, vous voyez, pour qu'il nous conduise, et si nous le faisons, Dieu nous conduira. Alors, c'est pas une garantie qu'on n'aura pas des échecs, parce que parfois l'échec nous fait du bien, nous fait grandir. Il n'y a pas que la réussite qui fait grandir, l'échec fait grandir aussi parfois. Et on a besoin de temps en temps de traverser des moments d'épreuve, c'est nécessaire. Bon. Mais ceci dit, je crois que si nous confions vraiment notre vie à Dieu pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint, et que si nous demandons souvent cette grâce de l'Esprit à propos des décisions que nous avons à prendre, eh bien le Seigneur nous aidera. Et nous verrons que Dieu est présent dans notre vie. Non pas comme une baguette magique qui résout tous les problèmes, mais comme quelqu'un qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons et qui nous aide à tirer un bien de tout, des réussites comme des échecs. Oui. Bon. Donc vous voyez, la prière de demande, à demander la grâce de l'Esprit Saint. Bon. Et puis, je voudrais aussi dire deux mots de deux autres formes de prière. Je crois qu'ils sont aussi importantes comme ouverture à la grâce. C'est pas simplement la prière de demande, mais c'est aussi, par exemple, certaines parts de prière contemplative qui est nécessaire dans notre vie. Donc le deuxième point, je dirais, c'est aussi une certaine part de prière contemplative qui est nécessaire aujourd'hui pour tout le monde. C'est pas réservé aux moines et aux moniales. Alors, Vous me direz, oui, mais on n'a pas le temps. Bon, d'accord, on n'a pas le temps, mais Dieu ne vous demande pas de passer 5 heures en prière tous les jours. Mais au moins, je dirais, le petit quart d'heure ou les 10 minutes, ou oui, le petit moment que... Alors là, c'est un peu à chacun de voir son rythme. Alors, il faut avoir un certain rythme quotidien qui peut être très limité si on ne peut pas faire autrement. Un rythme hebdomadaire. Hein. Par exemple, une fois par semaine, ben, je vais à l'adoration à la paroisse. Puis il y a un certain rythme aussi annuel ou de retraite de temps en temps. Bon. Donc je dirais qu'il faut une petite part de prière contemplative aussi. Donc il n'est pas une prière de demande, hein, mais qui est une prière où simplement on se met en présence de Dieu. Hein, Seigneur, tu es là, je suis là. Hein, je suis là pour t'accueillir. Hein. Et il ne faut pas oublier que la partie la plus profonde de la prière, c'est justement la réceptivité. Il ne s'agit pas de faire de beaux discours ou de présenter à Dieu des choses magnifiques. Il s'agit d'être comme un petit, comme un pauvre en présence de Dieu, où je t'accueille, c'est tout. Je t'accueille, je crois en toi, tu es mon Dieu, tu es mon Père, je crois à ton amour et je t'accueille. J'accueille ta présence. Oui, cette dimension de réceptivité, c'est la dimension essentielle de la prière. Parce que ce qui est important dans la prière, c'est pas ce que moi je fais pour Dieu, mais c'est ce que Dieu fait pour moi, ou fait en moi. Donc c'est la réceptivité qui est fondamentale. Et même si ma prière est très pauvre, que j'ai des distractions, que j'ai l'impression de mal prier, c'est pas grave. Du moment que je prie avec foi, que j'accueille la présence de Dieu avec confiance, du moment que je m'ouvre à Dieu tel que je suis, eh bien c'est fantastique, et ça suffit. Et ça portera des fruits. Mais il faut de temps en temps s'arrêter, vous voyez. Alors ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Si on peut plus, tant mieux. Si je suis à la retraite, que je peux faire une heure d'oraison tous les jours, eh bien, il ne faut surtout pas s'en priver. Hein. C'est source de tellement de grâce. Oui. Mais donc, prendre des petits moments de prière contemplative. Hein, simplement pour se mettre en présence de Dieu, méditer sa parole, et puis accueillir le don de son amour. Hein, il ne s'agit pas de faire des choses compliquées, il ne s'agit pas de se creuser la tête, il s'agit d'être là. Et d'accueillir celui qui est là avant nous, qui se donne à nous, qui nous attend, mais très très simple, vous voyez. Donc cette dimension de prière contemplative, je dirais entre guillemets, on s'arrête vraiment dans le silence, de manière personnelle, on se met en présence de Dieu, dans l'écoute et l'accueil. Et puis, donc c'est important aussi parce que là même si on sent rien dans ces moments-là, hein, du moment qu'on est ouvert et réceptif, on reçoit quelque chose. Hein, Dieu se donne à nous. Hein, au-delà de ce qu'on peut comprendre avec l'intelligence, parfois, au-delà de ce qu'on peut sentir, mais Dieu se donne à nous. Hein, parce que je me suis mis en sa présence pour le recevoir et l'accueillir. Et il se passe quelque chose. Hein, je ne m'en aperçois peut-être pas tout de suite, mais parce que j'ai pris ces temps, vous voyez... Moi, ça m'a sauvé la vie. Enfin, je peux vous donner mon petit témoignage en vitesse. Je sais que j'ai eu un moment de ma vie où j'allais très mal vers 24 ans. Bon, j'avais vécu des choses un peu difficiles et puis je m'étais éloigné de Dieu. J'allais plus à la messe, je priais plus. Et puis, mais je sentais que j'allais vers la mort. Et c'était très clair. À un certain moment, j'ai eu une prise de conscience. Pas une mort physique parce que j'étais en parfaite santé. Mais intérieurement, enfin, ma vie n'avait plus de sens. Et puis je sentais que je devenais triste, je devenais... un peu désagréable à vivre pour les autres parce que j'étais pas heureux de moi-même. Enfin bon, à un moment, je me suis dit, oh là là, je peux pas continuer comme ça. Là, je vais vers la mort. Et donc, je me suis précipité dans un monastère où j'ai passé une semaine pour me remettre entre les mains du bon Dieu. Et Dieu m'a rien dit de spécial. La seule chose qu'il m'a dite, enfin, il m'a pas parlé avec des mots, mais j'ai senti ça dans mon cœur. La seule chose que Dieu m'a dit, prends un quart d'heure de prière tous les jours. Je te demande pas plus, mais pas moins. Prends tous les jours un quart d'heure pour me prier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu la grâce de... Je me dirais, c'est pas grand-chose. Mais quand même, parfois, oui, on est tellement sollicité par mille trucs hein, que même ce petit quart d'heure qu'on pourrait donner à Dieu, parfois on ne lui donne pas. Hein. Et très vite, j'ai senti que ça changeait. Vous voyez, je retrouvais une paix, je retrouvais une certaine clarté pour faire les bons choix au lieu de faire des bêtises. Et puis Dieu a guidé ma vie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Oui, ce petit quart d'heure, ben, il a eu beaucoup de conséquences positives. Vous voyez ? Donc là, je ne sais pas. Il faut voir ce que Dieu ne demande pas la même chose à chacun. Vous voyez ? Mais je dirais des petits moments quand même où on arrête tout pour le bon Dieu. Des petits moments donnés à Dieu gratuitement, qui lui appartiennent, avec une certaine fidélité, un certain rythme. Je crois que c'est bien de le faire, oui, parce que ça change beaucoup de choses. Il y a comme une porte qui est ouverte à Dieu, oui. Il y a une antenne qui est déployée, il y a une voile qui est ouverte, Et même si on sent pas le vent tout de suite, tôt ou tard, quelque chose de très très beau va se passer grâce à cette fidélité, à une petite part de prière contemplative. Et puis l'autre aspect de la prière dont je voulais dire quelques mots, je dirais, c'est la prière de, je dis en une phrase, être en permanence en dialogue avec Dieu. Alors, je dirais, alors on ne peut pas être en permanence en dialogue avec Dieu. Quand je suis en train de résoudre un problème de mathématiques, je pense à mon problème de mathématiques et c'est clair. Hein. Donc, mais je dirais, dans notre journée, on a mis l'occasion, je dirais, d'être en présence de Dieu. On est tout le temps en présence de Dieu, puis, mais on a mis l'occasion, je dirais, de le vivre de manière un petit peu plus consciente. Oui. Dire, Dieu, Seigneur, tu es là, tu me regardes comme un père regarde son enfant, je sais que tu m'accompagnes, je te rends grâce. Voyez. Et donc, je dirais ça, vous voyez, parsemer notre vie, notre journée, parsemer notre quotidien, de tout petit moment, alors ça peut être un quart de seconde, hein, mais ça suffit, hein, où nous tournons notre cœur vers Dieu. Oui, alors ça peut être pour le remercier, parce qu'on a vécu une belle chose, vous voyez, un beau rayon de soleil, un printemps qui arrive, un arbre en fleurs, ça peut être, je suis médecin, je viens de recevoir un client, ben je suis vachement content parce que j'ai pigé très vite où était le problème. Hein, donc je suis vraiment content d'avoir fait le bon diagnostic. Et ben je dis merci à Dieu, c'est une grâce. Hein, oui, donc des petits moments pour dire merci à Dieu, des moments pour l'invoquer quand on a besoin de lui, hein, face à une décision difficile, une difficulté, un problème. Et donc crier vers Dieu parce qu'on en a besoin, ça arrive souvent quand même dans l'existence humaine, ouais. Et puis aussi je dirais savoir aussi parfois demander pardon, hein. Oui, j'ai fait une bêtise, j'étais désagréable avec ma femme, j'étais un peu trop dur avec mes enfants, ben voilà, je me suis mis en colère, ben je demande pardon à Dieu, puis je leur demanderai pardon à eux aussi, hein. Mais oui, et tout ça pour dire que tout dans notre vie peut nourrir la prière, oui, les belles choses pour remercier, les difficultés pour demander, même le péché peut nourrir la prière pour demander pardon à Dieu. Il y a un moine qui, on trouve ses récits dans des moines, vous savez, ces moines d'Égypte du 4e siècle, là, un petit peu folklore. Et il y a un dialogue, j'ai trouvé ce texte une fois un peu amusant, où il y a un gars qui dit à un moine, qui est-ce qui t'a appris à prier? Il dit, ah ben moi c'est le démon qui m'a appris à prier. Mais pourquoi? Il m'a tellement tenté, oui, j'ai eu tellement de tentations que j'étais obligé en permanence de crier vers Dieu. Bon, maintenant ça va mieux, mais j'ai gardé l'habitude. Oui, 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 que Dieu fasse partie de notre vie. Oui, c'est notre meilleur ami. On n'a pas de meilleur ami. Et donc, vous voyez, alors, il ne s'agit pas de se casser la tête, il ne s'agit pas de faire du forcing, vous voyez. Mais simplement, dans le quotidien, eh bien, être le plus possible en dialogue avec le bon Dieu. Mais qui est notre, alors ça peut être, on peut s'adresser au Père, on peut s'adresser à Jésus, on peut s'adresser à l'Esprit, de toute façon ça revient au même, ça fonctionne bien la communication entre eux, donc comme le cœur nous y pousse, vous voyez, mais vivre en présence de Dieu, vous voyez, et dans un petit dialogue très simple, un simple regard, un mot de confiance et d'amour, une action de grâce, une demande de pardon, vous voyez, selon ce qu'on a besoin. Vous voyez, je dirais, Dieu est là, il faut en profiter. Dieu est tout le temps présent. Avec amour, avec tendresse. Et donc, je dirais, il faut accueillir cette présence, essayer de la cultiver de manière très très simple, hein, sans faire des choses compliquées, mais c'est important parce qu'il y a une amitié avec Dieu qui se tisse et s'approfondit, et qui est très très précieuse. Oui. Alors, qui reste mystérieuse parce que Dieu n'est pas toujours sensiblement présent. Parfois, il nous laisse vivre des moments très très douloureux. Parfois, pourquoi, on ne sait pas très bien. Donc je ne dis pas que tout est facile, hein. Mais il y a quand même quelque chose qui se noue, qui se tisse, vous voyez, d'une amitié, d'une présence mutuelle, d'un dialogue qui est belle, parce que là encore c'est une ouverture à la présence de Dieu, hein. Et plus nous sommes ouverts à la présence de Dieu, plus nous sommes en dialogue, en relation avec lui, et bien plus la grâce, hein, nous est communiquée, alors de manière parfois sensible, parfois sans qu'on sente rien, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe, hein. Je crois que c'est important aujourd'hui, vous voyez. Le pape Jean-Paul II dit la chose suivante, il dit un chrétien qui ne prie pas est un chrétien en danger. Dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais. Puis en même temps, moi je suis beaucoup touché parce qu'il y a beaucoup il y a une soif de prière chez beaucoup de gens aujourd'hui, une soif d'adoration. Moi je viens des États-Unis où j'ai passé 3 mois, j'ai vu plein de paroisses où il y a l'adoration 24 heures sur 24. Dans certaines paroisses, il y en a plein, plein, plein. Il y a vraiment une soif de prière, une soif de contemplation, parce que les gens en ont marre d'une vie superficielle. Oui. Ils veulent aller plus profond. Oui. Ils veulent rencontrer Dieu. Et Dieu veut se laisser rencontrer. Saint Jean de la Croix, il dit la chose suivante. Il écrivait ça au 15e siècle. Hein, il disait « Dieu a toujours voulu se révéler aux mortels. Hein, mais aujourd'hui, que la malice montre davantage son visage, il veut se révéler encore plus. » Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, hein? Oui, plus le mal est présent, plus Dieu se révèle, hein, au cœur qui le cherche, qui le désire. Hein, et moi, je suis parfois émerveillé des grâces de prière qu'ont certaines personnes dans le monde. Des braves laïcs qui simplement en un quart d'heure de prière vivent des choses très profondes avec Dieu qui me rendent jaloux. Vous voyez. moi j'ai vu ça en Sicile, j'étais il n'y a pas longtemps, une dame qui me parlait un petit peu de, qui va toutes les semaines régulièrement à l'adoration du Saint-Sacrement, qui me parlait un peu de ce qu'elle vivait là-dedans. Mais elle vivait des choses extrêmement profondes et très 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 belles. Et une femme qui avait un métier tout à fait normal, vous voyez, pas du tout. Et Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde, vous voyez, mais celui qui peut prier beaucoup, qui prie beaucoup, celui qui a peu de temps, ben, il prendra moins de temps, mais qu'il soit fidèle quand même. Vous voyez, alors ça peut être 10 minutes, ça peut être un peu plus, il faut voir aussi donc le jour, la semaine, enfin, bon, mais c'est très très important, et surtout aujourd'hui, vous voyez, parce que c'est par la prière que Dieu va tout renouveler. Et par la prière, Dieu renouvelle les cœurs. Purifie, renouvelle les familles, les couples, renouvellera les communautés, toute l'Église. Moi, je crois que l'appel le plus urgent que Dieu nous adresse aujourd'hui, c'est l'appel à la prière. Et il faut l'entendre. Alors, chacun selon ses possibilités. Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde, je le répète. Mais il ne faut pas passer à côté. Parce que c'est se priver de... Saint Jean de la Croix dit « Celui qui fuit l'oraison, fuit tout ce qui est bon ». C'est nous priver de quelque chose de très très grand et très important, enfin, de très simple en même temps, hein. mais c'est tellement important. Oui, donc la prière, hein. C'était le premier point. Alors, bon, le temps passe vite, je ne sais plus à quelle heure je devais m'arrêter, un petit décalage. Alors, le deuxième point, c'est un point extrêmement simple, vous allez voir, mais extrêmement important aussi, c'est la confiance. Oui, la confiance. Oui. Oui, plus je fais confiance à Dieu, eh bien plus je suis ouvert à la grâce du Saint-Esprit. Hein, la confiance. Oui. Et c'est la première chose aussi, enfin j'ai dit ça de la prière, donc je me contredis, mais disons la deuxième. Enfin ça va ensemble. Oui. Ce que Dieu nous demande d'abord, c'est pas d'être parfait. Ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de lui faire confiance. Oui, Dieu est un père. Oui. Et Thérèse, elle dit ça, oui, ce qui blesse le plus le cœur de Dieu, c'est nos manques de confiance en lui. Ce n'est pas nos bêtises, parce qu'il sait qui nous sommes. Mais ce qui blesse Dieu, c'est nos manques de confiance en lui. Oui, ne pas croire qu'il est vraiment père, et qu'il nous aime, et qu'il a tout en main. Alors je sais bien que c'est pas facile la confiance à certains moments, hein. Dans certaines grandes épreuves, face à des grosses difficultés familiales ou autres, bon, c'est pas facile de pratiquer la confiance, mais c'est essentiel. Oui, parce que plus je suis dans la confiance, et bien plus mon cœur est ouvert à la grâce. Oui, et on n'a jamais trop confiance en Dieu. Oui, c'est vrai au plan humain aussi. Oui, si je fais confiance à quelqu'un, et bien je suis ouvert à cette personne. Je l'accueille, j'écoute ce qu'elle me dit, je reçois ses conseils, je reçois son aide. Quand on a confiance en une personne, on sent vraiment qu'on peut lui faire confiance parce qu'elle est honnête, elle est profonde, elle nous aime vraiment. Eh bien, quand je sens que je peux faire confiance à quelqu'un, je suis extrêmement accueillant à cette personne. Au contraire, quand je n'ai pas confiance en quelqu'un, ben je suis fermé. Et oulala, je mets des barrières, je prends des distances. Et c'est pareil par rapport à Dieu. Mais si j'ai confiance en Dieu, ben je suis complètement ouvert à son action, à sa parole, à sa conduite. Au contraire, si je n'ai pas confiance en Dieu, si je manque de foi, si j'ai des doutes, des soupçons en permanence, vous voyez, eh bien là je suis fermé, c'est clair. La confiance. Saint Jean de la Croix, il dit la chose suivante, il dit... On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Oui. Et Dieu nous donne, non pas selon nos mérites, non pas selon nos vertus, nos réussites, mais Dieu nous donne selon notre confiance, selon notre espérance. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement important. Et chaque fois que nous disons à Dieu, bon, je suis dans la difficulté, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Eh bien, quelque chose s'est ouvert en nous, à son action. Et donc, l'Esprit Saint peut venir et travailler. On le sentira parfois, parfois on ne le sentira pas, je le répète, peu importe. Mais plus je suis dans la confiance, plus je suis ouvert à la grâce dont j'ai besoin pour la vie qui est la mienne. Alors ça, on pourra en parler beaucoup. Hein. Et puis, quelqu'un qui a pratiqué ça de manière merveilleuse, c'est la petite Thérèse de Lisieux. Et tout ce qu'elle dit sur la confiance, c'est absolument magnifique. Je voudrais vous citer simplement un texte, un tout petit exemple. Un texte de Thérèse qui parle du pouvoir de la confiance. C'est une histoire de père et d'enfant. Combien la confiance de l'enfant touche le cœur du père. Même si cet enfant, vous verrez, c'est pas un enfant parfait, loin de là. Mais simplement, on pourrait appliquer ça dans 1000 domaines différents. Là, c'est pour recevoir le pardon de Dieu, sa miséricorde. Mais une petite parabole donc, de Thérèse de Lisieux qui montre la puissance de la confiance. Combien par la confiance, on peut tout obtenir de Dieu. Saint Jean de la Croix, il dit ça, il dit on peut tout obtenir de Dieu quand on sait comment le prendre. Et il faut le prendre par le cœur, par son cœur de père, par la confiance. Donc, illustration. C'est une lettre à un prêtre, justement un prêtre qui avait beaucoup de mal, qui était scrupuleux, inquiet, qui avait beaucoup de mal à faire confiance à Dieu parce qu'il voyait ses imperfections, ses défauts, et puis il se sentait tout le temps jugé, condamné. Donc voilà ce que lui dit Thérèse. Je voudrais essayer de vous faire comprendre par une comparaison bien simple combien Jésus aime les âmes, même imparfaites, qui se confient en lui. Combien Jésus aime les âmes, même imparfaites, qui se confient en lui. Je suppose qu'un père et deux enfants espiègles et désobéissants, et que venant pour les punir, il envoie un qui tremble et s'éloigne de lui avec terreur, ayant pourtant au fond du cœur le sentiment qu'il mérite d'être puni. Oui, donc des enfants qui ont fait des bêtises, le papa s'en aperçoit, les surprend. Alors il réagit de manière différente. Il y en a un, donc avec terreur, il s'enfuit, vous voyez, et l'autre. Et que son frère, au contraire, il est bien plus malin, il se jette dans les bras du père en disant qu'il regrette de lui avoir fait de la peine, qu'il l'aime, et que pour le prouver, il sera sage désormais. Puis, si cet enfant demande à son père de le punir par un baiser, je ne crois pas que le cœur de l'heureux père puisse résister à la confiance filiale de son enfant dont il connaît la sincérité et l'amour. Oui, c'est un enfant qui aime sincèrement son père quand même, même s'il a fait des bêtises. Et puis il veut quand même changer, peut-être qu'il n'y arrivera pas tout de suite, mais il veut quand même un petit peu s'améliorer. Donc il y a une bonne volonté, il y a un amour authentique. Sinon, évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, il n'ignore pas, mais vous voyez donc l'audace de l'enfant. Qui non seulement se jette dans les bras du père, mais lui dit « Papa, j'ai fait des bêtises, mais punis-moi par un baiser. » Qu'est-ce qu'il fait le père? Il craque, évidemment. Il n'ignore pas, cependant, que plus d'une fois, son fils retombera dans les mêmes fautes. Mais il est disposé à lui pardonner toujours, si toujours son fils le prend par le cœur. Oui, on trouve l'expression chez Thérèse. Il est disposé à lui pardonner toujours, si son fils le prend par le cœur. Il le prend par la confiance. Parce que ça honore Dieu, vous voyez. Dieu est content qu'on lui fasse confiance, parce qu'il est père, parce qu'il nous aime vraiment et qu'il mérite cette confiance. Et glorifier Dieu, enfin faire confiance à Dieu, c'est le glorifier, c'est l'honorer. Parce que c'est reconnaître ce qu'il est, qu'il est digne de notre confiance en tant qu'il est vraiment père. Je ne vous dis rien du premier enfant, mon cher petit frère, vous devez comprendre si son père peut l'aimer autant et le traiter avec la même indulgence que l'autre. Donc une petite parabole très simple et qui nous fait comprendre le pouvoir qu'a la confiance sur le cœur de Dieu. Et donc plus nous sommes dans la confiance, bien plus nous recevons l'amour, le pardon, la miséricorde, l'aide dont nous avons besoin. Je crois que la confiance est un des outils les plus puissants pour obtenir la grâce du Saint-Esprit. Alors elle n'est pas toujours facile à pratiquer, je le répète. Parfois la confiance est même héroïque. Dans certaines situations très très douloureuses, mais c'est à ça que l'Évangile nous appelle. Et plus nous sommes dans la confiance, et bien plus l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Bon, je m'arrête donc pour ce matin. Alors, je devais vous proposer un peu des pistes de réflexion là pour le petit temps qu'on a. Il est un peu court, mais alors. Je vous pose un peu deux points. Enfin, le premier point, c'est peut-être faites, quels sont les moments dans ma vie où j'ai perçu l'action de l'Esprit Saint? Quels sont les moments dans ma vie où j'ai perçu l'action de l'Esprit Saint? Essayez de faire mémoire de ça, un petit peu, des moments où je sens que j'ai été aidé ou éclairé dans une décision, où j'ai senti une présence, une consolation, enfin bon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Faire un peu mémoire des moments où j'ai perçu l'action de l'Esprit dans ma vie. Hein. Et puis, est-ce que j'essaye aujourd'hui de me laisser conduire par l'Esprit? Et quels moyens je prends pour ça? Il ne suffit pas de dire « je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit », il faut prendre des moyens. Non, c'est justement de ça qu'on parle, hein, mais c'est bien que vous y réfléchissiez à partir de votre expérience. Quels sont les moyens donc, que je prends aujourd'hui pour être conduit par l'Esprit? Ça, c'est la première question, c'est clair. La deuxième question, c'est « où en suis-je dans ma vie de prière ?» Alors ça peut être la prière personnelle, bon, la prière du couple ou en famille, pour en parler un petit peu aussi, mais peut-être d'abord la prière personnelle. Donc, où en suis-je dans ma vie de prière? Quel temps je consacre à la prière? Avec quel rythme? Donc au moment de prière proprement dit. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que c'est précieux pour moi ces moments de prière? Quels sont les obstacles que je rencontre pour être fidèle à la prière? Ça arrive qu'il y ait des obstacles évidemment. Et puis ensuite, est-ce que j'essaye de vivre mes journées dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit, ce dialogue avec le Seigneur? Et puis donc, qu'est-ce que Dieu pourrait me demander de plus par rapport à la prière aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait pas un appel de Dieu peut-être? Donc essayez de voir là aujourd'hui, bon, voilà quelle est ma vie de prière. Bon, si c'est bien, c'est bien, hein, mais peut-être que le Seigneur me demande peut-être qu'elle soit plus profonde, qu'il y en ait davantage ou d'autres formes, je ne sais pas. Essayez de vous poser la question. Quel est l'appel de Dieu pour moi aujourd'hui à propos de la vie de prière? C'est bon? Allez, on termine par un Notre Père et puis après ça, nous nous retrouvons à la messe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.